Adesso ascoltiamo la Bedojovna. Fu professore in seminario, poi professore all'Istituto San Pio X in Calucci e adesso il superiore del distretto di Francia per la paternità.
Je ne connais malheureusement pas l'italien. Je vais donc faire cette conférence en français. Je suis le dernier à parler. Et après une journée bien remplie, j'espère que je ne serai pas la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Je vous parlerai de Saint-Pédis et des moyens ou du moyen que j'estime être celui qu'il a mis en place pour lutter contre le modernisme. Saint-Pédis est élu un mois et demi après la mort de Léon XIII, et dès le début de son pontificat, l'opinion commune répand que ce pape-ci, Saint-Pédis, est un pape religieux, marquant ainsi la différence avec son prédécesseur. Et voici, pour attester ce que je viens de dire, quelques jugements que j'ai pris dans des auteurs qui sont classés de droite ou de gauche. Par exemple, d'Ancette, dit dans son histoire religieuse de la France contemporaine, Léon XIII a rendu à l'Église la place qu'elle avait perdue dans le monde au temps de Pie IX. Il est logique que par un mouvement en sens opposé, succède à un homme d'État tourné vers les nations, un apôtre dont la sollicitude s'attachera aux fidèles, qu'un bâtisseur de chrétienté soit remplacé par un sauveur d'âme. Voilà un autre jugement, celui d'Aventino dans le gouvernement de Pie X. Lorsque le cardinal Giuseppe Sarto fut élevé à la tiare, une interprétation sommaire de ses actes antérieurs comme évêque de Mantoue et patriarche de Venise, fit dire généralement que le nouveau pontificat serait exclusivement religieux et n'aurait aucun caractère politique. Encore un autre jugement, celui d'Aubert, dans sa nouvelle histoire de l'Église. Pie X apportait sur le siège de Saint-Pierre un esprit différent de son prédécesseur. Alors que celui-ci se complaisait dans les jeux subtils de la diplomatie et de la politique, Pie X n'y avait aucun goût, ne voulant pas se plier aux compromis qu'ils impliquent nécessairement. Il était bien décidé à se concentrer sur les problèmes d'apostolat et de vie chrétienne. Enfin, dernier jugement, celui du révérend père Jarlot, jésuite. On a dit, après un trop long règne, où l'action politique avait tenu une place importante, trop importante aux yeux de certains, on désirait pour l'Église un retour sur sa vie intérieure. Voilà donc, reflété par quelques jugements, l'opinion commune qui circule à l'élection de ce pape, donc Giuseppe Sarto. On a désormais, semble-t-il, un pape religieux qui succède à un pape politique. Et si on lit les encycliques de Saint-Pédis, au moins ses premières, celles qui sont importantes, on pourrait confirmer ses jugements. Voilà par exemple ce que dit Saint-Pédis dans sa première encyclique « Et supprimi apostolatus ». Cependant, puisqu'il a plu à Dieu d'élever notre bassesse jusqu'à cette plénitude de puissance, nous puisons courage en celui qui nous conforte, mettant la main à l'œuvre, soutenu de la force divine, nous déclarons que notre but unique dans l'exercice de suprême pontificat est de tout restaurer dans le Christ, afin que le Christ soit tout en tous. Et Saint Pédis poursuit un peu plus loin, dans la même encyclique. Sans doute le désir de la paix est dans tous les cœurs, et il n'est personne qui ne l'appelle de tous ses voeux. Mais cette paix, insensée qui la cherche en dehors de Dieu, car chasser Dieu, c'est bannir la justice, et la justice écartée, toute espérance devient une chimère. La paix est l'œuvre de la justice. Il en est en grand nombre, nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, c'est-à-dire de la tranquillité de l'ordre, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas, vaines espérances, peine perdue de parti d'ordre capable de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, le parti de Dieu. C'est donc celui-là qu'il nous faut promouvoir, et c'est à lui qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible, pour peu que nous ayons à cœur la sécurité publique. Cet extrait pourrait donc sembler dire que Saint-Pédis met d'abord et surtout son souci de restaurer finalement la vie religieuse avant d'aborder quelques problèmes politiques. Dans une autre encyclique, Jucunda Sane, qui date du 12 mars 1904, qui est donc publié quelques 5 mois après la précédente, le pape a quasiment les mêmes mots. Cette encyclique avait été écrite à l'occasion du 13e centenaire de Saint Grégoire le Grand. Alors Saint Pédis fait le panégyrique de son illustre prédécesseur pour indiquer quelle doit être la mission de la papauté aujourd'hui, et il adopte la même solution. La même solution à une même, dit Saint Pédis, situation dramatique. Cette situation dramatique serait donc résolue, semble-t-il, par une solution strictement spirituelle d'apostolat simplement. Voilà les termes du pape. Il est merveilleux de constater ce qu'il réalisa, donc il parle de Saint Grégoire le Grand, durant un gouvernement d'un peu plus de 13 ans. Et nous savons que Saint Pédis va régner de 1903 à 1904, pas beaucoup moins que Saint Grégoire. Il fut le restaurateur de toute la vie chrétienne, ranimant la piété parmi les fidèles, la règle dans les monastères, la discipline dans le clergé, la sollicitude pastorale des pontifes sacrés. C'était bien le chef plein de sagesse de la famille du Christ. Donc il insiste sur ce côté spirituel. Et un peu plus loin, il ajoute « Mais il est notoire aussi qu'il n'a pas agi à la manière des grands de ce monde, par la force et la puissance. Lui qui est élevé à ce fait sublime de la dignité pontificale, a voulu être le premier appelé le serviteur de Dieu. Il ne s'est pas frayé la route avec la seule science profane ou les paroles persuasives d'une sagesse toute humaine, ni avec les calculs de la politique civile, ni avec les savantes combinaisons de réformes sociales longuement élaborées, ni enfin, ce qui est une merveille, il parle toujours de Saint Grégoire le Grand, avec un vaste programme d'action apostolique bien conçu et arrêté d'avance dans toutes ses phases. Nous savons au contraire, continue Saint Pédis, que absorbé dans la pensée de la fin imminente du monde, il croyait, Saint Grégoire le Grand, qu'il ne lui restait que peu de temps pour réaliser de longs travaux. D'une constitution frêle et délicate, affligé de longues maladies, souvent dangereuses pour sa vie, il jouissait pourtant d'une incroyable force d'âme à laquelle sa foi vive, dont la parole infaillible et les divines promesses du Christ fournissaient toujours un aliment nouveau. Inébranlable aussi était sa foi dans la vertu communiquée par Dieu à l'Église et qui devait l'aider à remplir dignement sa sainte mission sur la terre. Ainsi, le but unique de toute sa vie, tel que nous le révèlent ses paroles et ses actes, ce fut d'entretenir dans son propre cœur et de susciter dans les autres cette foi et cette confiance et jusqu'à son dernier jour de faire tout le bien que les circonstances lui permettaient. Voilà donc un deuxième extrait qui pourrait manifester encore que le souci de Saint Pédis, comme celui de Saint Grégoire le Grand, est avant tout religieux, un souci d'apostolat bien plus donc que politique. Et il insiste, Saint Pédis, dans cette même encyclique, « Le pasteur des peuples doit de plus leur inculquer, comme il convient, de leçons morales enseignées par le Christ. » Apprendre à tenir les rênes de leur raison, maîtriser les mouvements passionnés du cœur, endiguer les débordements de l'orgueil, respecter l'autorité, pratiquer la justice, embrasser tous les hommes dans un même amour, adoucir par la charité chrétienne les aigreurs qui naissent des inégalités de fortune dans la vie sociale, élever les âmes au-dessus des biens terrestres, se contenter de leurs conditions accordées par la Providence, modérer la foule des revendications, tendre enfin vers la vie future dans l'attente confiante de la récompense éternelle. Surtout, il importe de travailler à ce que ces principes pénètrent dans les âmes et s'y gravent intimement afin qu'une vraie solide piété y pousse de profondes racines que chacun non seulement professe, mais pratique ses devoirs d'homme et de chrétien, se réfugie avec une confiance filiale dans les bras de l'Église, ses ministres, obtiennent par eux le pardon des péchés et les grâces de force contenues dans les sacrements, et conforme sa vie aux préceptes de la loi chrétienne. Voilà donc, semble-t-il, un programme de pasteur, programme strictement chrétien, programme d'apostolat sans aucune politique. Troisième passage, ou plutôt troisième encyclique, qui manifeste encore, semble-t-il, cette opinion commune qui se répandait à son élection. Saint Pie X est un pape religieux et non pas politique. Il s'agit cette fois de l'encyclique que Saint Pie va écrire à l'occasion du 8e centenaire de Saint Anselme, le 21 avril 1909. Elle s'appelle « Communium Rerum ». Nous avons, comme dans la précédente, un tableau de la situation à l'époque de Saint Anselme. Comme à l'époque de Saint Grégoire le Grand, la situation est dramatique, il le dit. Il s'agit donc de remèdes à mettre en place, à l'époque de Saint Anselme, comme à celle de Saint Grégoire le Grand. Saint Pédis se dit qu'il s'agit d'une apostasie universelle, et les remèdes proposés sont alors les mêmes. Voilà les termes du pape. Vous connaissez en effet, vénérables frères, les tristesses étant présentes et les douloureuses conditions de notre ministère. Les infortunes publiques nous avaient accablés d'une peine indicible, mais la blessure s'en est ravivée à entendre les calomnies portées sur le clergé, comme si dans ces calamités, il n'avait apporté qu'un concours paresseux, avoir les obstacles dressés pour empêcher d'exercer sa bienfaisante vertu à l'égard de ses malheureux enfants. A constaté que ses soins maternels et sa sollicitude étaient méconnus. Ce n'est pas tout, c'était la critique du saint Anselme. Nous taisons notre méfait machiné avec une ruse perfide ou perpétré avec une audace sacrilège pour la ruine de l'Église, et cela au mépris des lois publiques et en violation de toutes les lois de la justice et de l'équité naturelle. Donc saint Pédis se manifeste encore, il s'agit là de restauration surtout spirituelle et non pas politique. Donc voilà ces termes de Saint Pie. Je poursuis cette encyclique. Néanmoins, dit donc Saint Pie X, il parle de Saint Anselme, au milieu de tant de soucis, il ne craignait rien tant que ne pas assez faire pour son salut et celui de son peuple, l'honneur de Dieu et le triomphe de l'Église. Et quand son âme, en proie à ses préoccupations, se trouvait brisée et endolorie, d'ailleurs par la défection d'un grand nombre de ses amis, parmi lesquels les évêques, rien ne le réconfortait tant que de placer dans le secours de Dieu toute sa confiance et de chercher un refuge dans le sein de l'Église. Voilà ce que dit saint Pédis de saint Anselme, et qui semble reprendre pour lui, donc ainsi qualifier ses propres sentiments. On pourrait donc penser, avec ces trois extrêmes, que saint Pédis effectivement est un pasteur, un pape, qui a le souci d'abord et avant tout du soin des âmes, un pape spirituel, et non pas un pape politique. Pourtant, il serait inexact, sinon faux, de prétendre que le caractère de saint Pédis, du pontificat de saint Pédis, est exclusivement religieux et non pas politique. Je reprends là une citation d'Aventino, qui affirme « Le pontificat de Pédis, éminemment religieux, ne peut se détacher de toute politique. Préoccupé à avoir un but éminemment religieux, l'action de Pie X n'aura jamais un caractère exclusivement politique ou diplomatique. Elle ne sera jamais que politico-religieuse. En aucun cas, la question morale et religieuse ne sera subordonnée à des conditions terrestres. Nous verrons Pie X lever hardiment la croix contre la politique blocarde en France ou en Espagne, contre les prétentions arbitraires du gouvernement russe. Loin d'abattre son courage, puisé aux sources surnaturelles de la foi, les obstacles les plus terribles redoubleront son énergie et lui donneront la force de réveiller celle des autres. De la résistance défensive, saint Pie X ne craindra pas de passer à la résistance offensive et même de la conseiller. Voilà ce qu'il dit dans Jucunda Sane. Dans l'accomplissement du devoir, surtout lorsqu'il s'agit de procurer la gloire de Dieu, il ne faut fuir devant aucun combat. Il ne faut plutôt aller au-devant, puisque Dieu est puissant, assiste ceux qui combattent. Ces mots, donc adressés par Sapidis au cardinal Fischer en 1911, eh bien, redisent exactement ce que Pellis avait écrit dans son encyclique en 1904, que j'ai cité, Jucunda Sane. Toutes les fois, dit encore Aventino, qu'un intérêt catholique sera menacé, le pape sera aussitôt prêt à le défendre, par exemple contre la République du Bloc ou contre l'autocratie du Tsar, même contre la monarchie catholique et parlementaire d'Espagne, ou bien contre la toute-puissance protestante de l'Empire allemand. La lutte religieuse en France, la défense du catholicisme en Russie, l'affaire de l'archevêché de Posen en Allemagne, les incidents donc aussi en Allemagne et en Espagne donc révèlent l'unité de la méthode de Saint-Pédis, l'unité même de sa pensée. Toute la politique de Saint-Pédis est tout entière effectivement centrée sur un principe, une idée. Et il ne semble donc pas possible de dire que la politique de Saint-Pédis fut une politique simplement ou seulement religieuse en excluant tout caractère politique. Nous le voyons ici, toute la vie de Saint-Pédis fut une vie de lutte contre des empires quels qu'ils soient. Le pontificat de Saint-Pédis est donc en fait un pontificat politico-religieux. Et ses encycliques sont à cet égard caractéristiques. Le premier document qui manifeste ce caractère donc politico-religieux de Saint-Pédis, c'est l'allocution consistoriale du 9 novembre 1903, Primum Vos. Notre fonction, dit Saint-Pédis, est donc de défendre la vérité et la loi chrétienne. Dès lors, nous aurons le devoir d'éclaircir et de définir les notions des vérités les plus importantes, ramenées à la règle et au droit sentier de l'honnêteté dans la vie publique et dans la vie privée, sur le terrain social et sur le terrain politique. Tous les hommes, chacun d'eux, ceux qui obéissent et ceux qui commandent, car ils sont tous fils d'un même Père qui est aux cieux. Nous ne nous cachons pas que nous choquerons quelques personnes en disant, dit Saint-Pédis, que nous nous occuperons nécessairement de politique. Mais quiconque veut juger équitablement voit bien que le souverain pontife, investi par Dieu d'un magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires politiques du domaine de la foi et des mœurs. En outre, chef et guide souverain de la société parfaite qu'est l'Église, société composée d'hommes et établie par les hommes, il ne peut que vouloir entretenir des relations avec les chefs d'État et les membres des gouvernements s'il veut que tous les pays du monde protègent la liberté et la sécurité des catholiques. Voilà un premier document manifestant qu'il ne s'agit pas simplement de vie religieuse à l'exclusion de toute vie politique. Deuxième document, non moins caractéristique, c'est le discours de béatification de Sainte Jeanne d'Arc le 19 avril 1909. Ayant tout en commun avec lui, riche de ses biens, dépositaire de la vérité, l'Église seule peut revendiquer des peuples la vénération et l'amour. Ainsi, celui qui se révolte contre l'autorité de l'Église, sous l'injuste prétexte qu'elle envahit le domaine de l'État, impose des termes à la vérité. Celui qui la déclare étrangère dans une nation déclare du même coup que la vérité doit être étrangère. Celui qui a peur qu'elle n'affaiblisse la liberté et la grandeur d'un peuple est obligé d'avouer qu'un peuple peut être grand et libre sans la vérité. Non, dit le pape, il ne peut prétendre à l'amour cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui en faisant la guerre à la vérité, outrage ce qu'il y a en l'homme de plus sacré. Ces sentiments de vénération et d'amour, cette patrie seule peut nous les inspirer, qui, unie en chaste alliance avec l'Église, produit le vrai bien de l'humanité. Troisième document qui manifeste encore cette politique de Saint-Pédis, politique religieuse, c'est la célèbre condamnation du Sillon le 25 août 1910, notre charge apostolique. Saint-Pédis y précise, dans ses habitudes, il parle aux évêques, démocratiques sur la cité idéale et théorique qui les inspire, vous reconnaîtrez, vénérable frère, la cause secrète des manquements disciplinaires que vous avez dû si souvent reprocher au sillon. Et le pape va condamner dans ce document, notre charge apostolique, le pape va condamner un système politique. C'est la démocratie chrétienne établie par Marc Sangnier. D'ailleurs, de catholique, cite saint Pélis, le sillon finira par n'être pas anticatholique. C'est-à-dire qu'on ne saura plus ce qu'il est. Le quatrième document qui manifeste le souci pontifical, qui n'est pas exclusivement religieux mais bien politico-religieux, c'est Il Fermo Proposito du 11 juin 1905, donc sur l'action catholique en Italie. Saint Pélis y déclare « Vous voyez bien, vénérable frère, quel appui apporte à l'Église ces troupes choisies de catholiques qui se proposent précisément de réunir ensemble toutes leurs forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne. Réparer par tous les moyens les désordres aussi graves qui en dérivent, replacer Jésus-Christ dans la famille, dans les cœurs, dans la société, rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu, s'employer par conséquent à rendre les lois publiques conformes à la justice, à corriger ou à supprimer celles qui ne le sont pas, défendre enfin et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses et les droits non moins sacrés de l'Église. » Cette dernière citation montre comment saint Pélis envisage de tout restaurer dans le Christ, selon sa devise. Il s'agit justement d'une politique religieuse, où le domaine politique, c'était manifeste dans sa bulle de béatification de saint Jeanne d'Arc, il s'agit donc d'une politique religieuse où le domaine politique est subordonné aux religieux. Mais il est vrai, saint Pélis est pape, il est chef de l'Église universelle. Il est donc nécessaire qu'il considère d'abord et avant tout le religieux, parce que c'est le sommet de la vie humaine. Cette subordination, donc extrêmement importante, du politique au religieux, imprime tous les écrits du pape, tous, et en particulier Pascendi. Saint Pélis montre la gravité du modernisme. Pourquoi ? Parce que c'est un mal qui atteint justement toute la vie humaine. Toute la vie humaine. Pas seulement dans l'ordre naturel, mais aussi dans l'ordre surnaturel. Ou pas seulement dans l'ordre surnaturel, mais aussi dans l'ordre naturel. Et d'ailleurs, Pascendi commence, c'est une encyclique, elle commence par une critique d'un système philosophique, du système philosophique moderniste qui s'appelle ou qu'il appelle l'agnosticisme. Le modernisme est donc fustigé par le pape comme la ruine totale de tout l'édifice humain, de tout ce que l'homme peut construire pour se perfectionner ou être perfectionné. Et c'est donc la ruine par nécessité, de la subordination nécessaire du politique au religieux, de l'État à l'Église. Voilà pourquoi cette encyclique est si importante. Elle récapitule, finalement, toutes les erreurs. Alors voyons Pascendi point par point pour montrer ceci. Saint Pélis condamne les sept faces du modernisme et il va en donner ensuite sept remèdes. Il condamne d'abord le philosophe moderniste qui récuse toute preuve rationnelle de l'existence de Dieu comme cause première. Le philosophe moderniste sombre nécessairement alors dans l'athéisme, soi-disant scientifique. Pour lui, le divin émane de la subconscience de l'homme. La foi devient un sentiment qui s'exprime en des formules qui sont nécessairement changeantes puisqu'elles n'ont d'autre but que d'entretenir ou de réchauffer une vie qui n'est que sentimentale. C'est la vie du cœur, qui par définition est irrationnelle. La religion intérieure est une forme de vie, et comme telle, elle n'est pas une adhésion à un objet extérieur. La religion procède de l'homme. C'est l'immanence religieuse, l'immanence vitale. La foi n'est plus une connaissance certaine, supérieure à toute connaissance scientifique. Au contraire, la science, que d'ailleurs les modernes réduisent au mesurable quantitatif, la science impose son contrôle à tout jugement humain. Ensuite, dans Pascendi, Saint Pédis condamne le théologien moderniste. Puisqu'il ne s'agit plus de connaissances, mais de sentiments et d'immanences, puisqu'il n'y a plus d'objet extérieur auquel on adhère, le théologien n'est plus qu'un fabricateur de symboles, apte, ces symboles, à représenter le divin qui émane du subconscient humain. Et ces symboles doivent donc satisfaire l'appétit sensible. Le meilleur de ces symboles, ce sont les sacrements. Le magistère à son tour, le magistère n'a plus pour fonction que transmettre les opinions communes, les sentiments communs. Le culte devient dans ces conditions une expression humaine du sentiment religieux qui émane encore une fois de la subconscience. Et l'Église moderniste, elle? Eh bien, l'Église moderniste, elle est la conscience collective, dit Saint Pédis, comme le régime populaire est la conscience publique. Seule la forme démocratique lui convient, sont les mots du pape. On aboutit ainsi, dit Saint Pédis, nécessairement à la séparation de l'Église et de l'État. En effet, comme la foi est soumise à la science et à la raison, au profit de la raison, jusqu'à l'évanescence de la foi, ainsi l'Église est soumise à la conscience collective qui constitue la grande démocratie chrétienne par essence, c'est-à-dire l'État. L'Église devient l'État qui est une démocratie chrétienne. Et l'autorité n'en est plus qu'un service dont la mission est de prendre en quelque sorte le pouls universel pour l'exprimer en des formules qui seraient claires pour tous. Saint Pédis montre ensuite le moderniste agnostique, donc immanentiste, évolutionniste, en concluant « À la faveur de l'audace et de la prépotence des uns, de la légèreté et de l'imprudence des autres, il s'est formé comme une atmosphère pestilentielle qui gagne tout, pénètre tout, et propage la contagion. Le moderniste est donc un réformateur. Réformateur, et ce par manie. Réformateur de la philosophie. Réformateur de la théologie. Réformateur du gouvernement ecclésiastique au profit de la démocratie. Réformateur de la morale au profit de l'américanisme. Réformateur même du célibat ecclésiastique. Point par point, on a vu où nous voyons ce programme de réforme se réaliser. Il apparaît donc que le modernisme, qui est le collecteur de toutes les hérésies, ruine non seulement la religion, non seulement l'ordre surnaturel qui disparaît puisqu'il émane du subconscient, mais le modernisme ruine aussi la nature. Il détruit l'homme en ses capacités. Bon, mais Saint Pédis, en pape qu'il est, ne fait pas que dénoncer simplement les multiples faces de cette hérésie. Il montre leur cause commune. Laquelle ? L'orgueil. L'orgueil, dit Saint Pédis, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quel côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un aliment et il s'y étale sous toutes ses faces. Alors qu'est-ce que l'orgueil ? Je me contenterai d'une citation de Saint Thomas dans le Démalo. Le premier péché du diable a été de vouloir la béatitude surnaturelle qui consiste dans la pleine vision de Dieu sans recourir à Dieu, ni attendre comme les saints anges sa perfection finale, la grâce divine, de vouloir la joindre par les ressources de sa nature, non pas certes indépendamment de Dieu qui donne à la nature d'agir, mais indépendamment de Dieu qui confère la grâce. Alors, pour l'homme, comme pour l'ange, l'orgueil, c'est d'abord le refus du surnaturel. C'est le refus de l'ordre de la grâce. Mais pour nous, hommes, le surnaturel. La grâce relève nécessairement du mystère d'incarnation, dont le motif, selon saint Thomas, tertia pars, question 1, article 3, est plus probablement convenientius, le péché. Pour les hommes, alors, l'orgueil, finalement, a pour centre ce refus de miséricorde, ce refus de l'univers de la grâce, c'est-à-dire ce refus de l'incarnation, ce refus du verbe incarné rédempteur. Voilà le point commun, la racine commune des sept faces du modernisme. Quels sont alors les remèdes que saint Pédis propose dans la même encyclique ? Ce mal donc terrible, dit-il, qui est effrayant et ronge l'Église, il le dit dans la première encyclique, jusqu'à sa moelle. Eh bien, comme il avait donc distingué cette face du modernisme, de l'erreur, il propose sept remèdes. D'abord, et c'est dans l'ordre, la restauration de la philosophie du docteur Angélique, docteur comme à l'Église, qui doit être le maître en philosophie. Saint Pédis insiste d'ailleurs sur cette primauté. Voilà ce qu'il dit le 29 juin 1914 en son motu proprio. Que les professeurs sachent bien que s'écarter de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave. Et saint Pédis s'attache surtout à la formation des prêtres. Voilà, dit-il, un remède très important, sinon essentiel. Il faut procéder avec vigilance et sévérité à l'examen et au choix des candidats aux saints ordres. Loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Dieu hait les superbes et les opiniâtres. Deuxième remède, c'est la prohibition des mauvais livres, qui est, dit-il, nécessaire. Et le pape a soin d'avertir, toujours dans Pascendi, la chose doit se faire avec prudence, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé. Ou autre mesure, la quatrième, le contrôle des publications avec l'obligation du nihil obstat et de l'imprimatur. Les censeurs ecclésiastiques seront désignés pour examiner les livres à publier. Et encore ici, toujours dans Pascendi, à ce propos, un soin attentif est porté par le pape aux prêtres. Il est fait défense aux membres du clergé, tant séculiers que réguliers, de prendre la direction de journaux ou revues sans la permission des ordinaires. Ensuite, saint Pédis oblige à la vigilance quant aux congrès sacerdotaux. Ils seront, dit-il, désormais rares. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient avant des voies dangereuses d'infection moderniste. Et voilà ce que dit saint Pédis. S'il arrive aux évêques d'en permettre, donc des congrès sacerdotaux, que ce soit toujours sous cette loi, qu'on n'y traitera point de questions relevant du Saint-Siège ou des évêques, que l'on n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur l'autorité ecclésiastique, que l'on n'y proférera aucune parole qui sente le modernisme ou le presbytérianisme ou le laïcisme. Avant-dernier remède, saint Pédis institue des conseils de vigilance diocésains qui seront établis avec des règles identiques que celles pour les censeurs de livres. Et enfin, dernier remède, saint Pédis invite les évêques à faire au Saint-Siège une relation fidèle, confirmée par le serment, sur l'exécution de toutes les ordonnances prescrites, sur les doctrines qui ont cours dans le clergé et surtout dans les séminaires. Alors, comme il avait paru une cause commune aux différentes erreurs constituant le modernisme, qui était l'orgueil, qui finalement pour les hommes est le refus de l'incarnation, de la rédemption, ainsi il apparaît en filigrane, dans ces sept remèdes proposés par saint Pédis au modernisme, il apparaît un point commun. Effectivement, il n'est qu'en filigrane dans Pascendi. C'est le soin jaloux que le pape porte aux prêtres. Ce souci pontifical, qui n'est effectivement que discret dans Pascendi, on le retrouve pourtant dans toutes les encycliques du pape. Il est facile de constater le zèle apporté par le Saint-Pape à la sanctification sacerdotale. C'est un soin d'ailleurs extrêmement précis et détaillé chez saint Pédis. Voyons par exemple la première encyclique, Et supprimi postulatus. Saint Pilis propose comme premier moyen pour amener les sociétés humaines égarées loin de la sagesse du Christ, il propose de former le Christ dans ceux qui, par le devoir de leur vocation, sont destinés à le former dans les autres, c'est-à-dire nous voulons parler des prêtres. Ainsi, dit le pape aux évêques, combien grande ne doit pas être votre sollicitude pour former le clergé à la sainteté. Il n'est affaire qu'ils ne doivent céder le pas à celle-ci. Que les nouveaux prêtres qui sortent du séminaire n'échappent pas aux sollicitudes de votre zèle. Autre exemple de ce soin pontifical. Encore dans Yukunda Sané, donc cette lettre, où il faisait sien le zèle de Saint Grégoire. La seule idée d'un danger, la seule pensée que la corruption répandue dans le monde romain menaçait de s'infiltrer dans les mœurs du clergé, lui inspirait crainte et tremblement. Saint Pilis parle de Saint Grégoire. On le voyait avertir, corriger, suspendre de leurs fonctions des clercs indignes. Comme il importe donc, vénérable frère, que l'évêque, avant d'imposer les mains à de nouveaux lévites, se livre lui-même et sous le regard de Dieu à un examen approfondi. On sent combien Saint Pilis fait sien, effectivement, ce souci de Saint Grégoire. Troisième exemple manifestant ce soin, ce zèle, même jaloux. Dans l'encyclique que nous avons déjà vu, Communium Rerum, à propos du 8e centenaire de Saint Anselme. Pourquoi pareille insistance à relever le mérite d'Anselme, donc dit Saint Pilis. C'est que, vénérable frère, c'est pour nous une heureuse occasion de vous exhorter de nouveau à ouvrir à la jeunesse cléricale ses sources de la science chrétienne. Qu'elle vienne s'abreuver à ses eaux salutaires, découvertes par le docteur d'Aoste, si abondamment enrichies par le docteur d'Aquin. On a abandonné ses études, ou bien on les y entreprend sans y porter une méthode ferme et sûre. Les résultats, on ne voit que trop, hélas. Les ruines s'accumulaient chaque jour. Beaucoup, même dans le clergé, sans aptitude et sans préparation, n'ont pas craint de discuter audacieusement les plus hauts mystères de la foi. C'est un malheur, dit Saint Pilis, que nous déplorons avec Anselme. Mais bien sûr, pour montrer ce soin jaloux qu'a Saint Pilis de son clergé, on ne peut que citer cette encyclique qu'il lui consacra, Erent Animo, qui est du 4 août 1908, c'est-à-dire juste un an après Pascendi. Par cette exhortation, ce ne sont pas seulement vos intérêts que nous défendrons, mais aussi les intérêts communs des nations catholiques. Et il parle aux prêtres. Par cette exhortation, je reviens sur la citation, ce ne sont pas simplement vos intérêts que nous défendons, mais aussi les intérêts communs des nations catholiques, les uns ne pouvant en aucune façon être séparés des autres. Et il rappelle Léon XIII, plût à Dieu qu'il y eut maintenant un plus grand nombre d'hommes à pratiquer ses vertus, comme les pratiquaient les saints des temps passés, qui furent puissants en œuvre et en parole, pour le plus grand profit non seulement de la religion, mais encore de la société civile. Lorsque l'esprit de la vocation sacerdotale sera renouvelé et accru chez tous les membres du clergé, nos autres projets de réforme, quels qu'ils soient, seront avec l'aide de Dieu beaucoup plus efficaces. Ces extraits, donc, me semble-t-il, manifestent le zèle, le souci premier qu'a le pape de la formation du clergé et même du jeune clergé dès les séminaires. Alors on peut conclure. De même que l'orgueil est la cause commune, la racine des sept faces du modernisme, et que cet orgueil est tout simplement chez l'homme le refus du Christ rédempteur. De même, il y a un remède commun pour Saint Pilis, la vertu sacerdotale. Pourquoi ? Parce que le prêtre participe précisément du Christ rédempteur. C'est l'homme de la foi. C'est l'homme des sacrements de la foi. Et voilà toute la splendeur de la devise du pape. Tout restauré dans le Christ. C'est finalement tout restauré dans le Christ rédempteur. Et en conséquence, tout restauré par le sacerdoce, car le prêtre est un autre Christ. Ce tout, c'est bien sûr et d'abord l'Église, mais c'est aussi la société humaine. La restauration de toutes choses passe nécessairement par le Christ rédempteur, donc par le prêtre. Il n'y a aucune restriction en ce tout. Le remède, d'ailleurs, proposé par saint Pie X dans sa première encyclique, Omnia restaura in Christo, Omnia instaura in Christo, n'est pas nouveau. Saint Pie X n'a rien inauguré. Il est justement un pape de tradition. Il reprend une idée bien ancienne et il fait tout simplement sien le souci constant des papes. En fait, il reprend, il continue l'œuvre d'un pape en particulier. Lequel ? Grégoire VII. Pourquoi ai-je choisi celui-ci ? Est-ce par hasard ? Non. Grégoire VII, il est vrai, n'est cité par saint Pie X, me semble-t-il, que trois fois. Trois fois dans la même encyclique. L'encyclique Communium Rerum, qui est celle du centenaire de saint Anselme, qui est justement un an après Pascendi. Dans cette encyclique, saint Pie X revient très fréquemment sur Pascendi. Et c'est justement dans celle-là qu'il cite Grégoire VII, le pape de l'époque de saint Anselme. Voilà ce qu'il dit des trois citations donc, de ce pape. Il n'était encore qu'abbé quand il reçut du grand et courageux pontife Grégoire VII, donc il dit quand il reçut du grand et courageux pontife Grégoire VII, des lettres pleines d'estime, il parle de saint Anselme, et d'affection, où le pape recommandait à ses prières et sa personne et l'Église catholique. Deuxième citation, par saint Pie X dans la même encyclique. Nous ne citerons qu'un nom, dit le pape, saint Pie X. Celui qui le porta fut un homme au courage indomptable, défenseur infatigable des droits et de la liberté de l'Église, le gardien vigilant et le sauveur de la discipline ecclésiastique, Grégoire VII. Et c'est justement donc dans cette encyclique, où saint Pie X cite Grégoire VII, qu'il revient, comme je vous disais, sur Pascendi, et très fréquemment, qu'il précise. Ce que nous voulons simplement faire remarquer aujourd'hui, c'est que si les dangers dont nous parlons sont plus graves, il parle des dangers de son époque, XXe siècle, sont plus graves et plus menaçants de nos jours, ils ne sont pas pour autant différents de ceux qui menaçaient l'Église et sa doctrine au temps d'Anselme. Saint Pie X précise bien, les mots actuels en 1903 jusqu'à 1914 ne sont pas différents mais plus menaçants. Il n'y a donc pas de différence de mots, il n'y a que aggravation. Or la conséquence est facile à déduire. Si les maux dont souffrait l'Église à l'époque de saint Anselme sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, même s'ils n'ont pas la même violence ou la même extension, au même mal convient le même remède. Et quel est ce remède ? C'est celui que préconisa le pape de l'époque, Grégoire VII. Voilà donc tout simplement saint Pie X sur les pas de Grégoire VII. Au même mot, les mêmes remèdes, au même danger, les mêmes remèdes. Et saint Pie X, finalement, est donc au deuxième millénaire ce que saint Grégoire VII fut au premier. Or, saint Grégoire VII avait excommunié Henri IV. Voilà la sentence de 1076. Fort de cette confiance, pour l'honneur, la défense de ton Église, de la part du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, en vertu de ta puissance et de ton autorité, j'interdis au fils de l'empereur Henri, qui s'est élevé contre ton Église avec une insolence inouïe, le gouvernement de tout le royaume des Teutons et de l'Italie. Je relève tous les chrétiens du serment qu'ils lui ont prêté, ou qu'ils lui prêteront. Je défends que toute personne lui obéisse, comme avant, comme à un roi. Il est juste, en effet, que celui qui s'efforce d'amoindrir l'honneur de ton Église perde lui-même l'honneur qu'il paraît avoir. Les mesures prises par saint Pie X sont du même ordre, mais évidemment dans des circonstances différentes. Même mal, même remède, ce remède va donc, quoique le même, s'exercer de façon différente en raison des circonstances. Alors qu'à l'époque de Grégoire VII, tous les États sont chrétiens et donc, par définition, soumis au pouvoir de l'Église. Au XXe siècle, à l'orée du XXe siècle, plus aucun pouvoir, ou quasiment aucun, ne reconnaît cette dépendance du politique sur le religieux. Alors Saint Pédis a évidemment une action beaucoup plus limitée, mais pourtant les principes sont les mêmes. C'est donc l'exécution seule qui en sera plus restreinte. Si Grégoire VII a pu excommunier Henri IV et a pu délivrer les sujets du serment prêté à l'empereur, Saint Pédis, lui, n'a pas d'autre moyen, si un gouvernement se désubordonne de façon radicale de l'Église, refuse son autorité ou se révolte contre elle, que de déclarer les citoyens, alors non plus comme déliés du serment, mais comme n'étant plus tenus au sentiment, c'est son expression, au sentiment de vénération et d'amour qu'ils devraient prodiguer. Voilà ce qu'il dit effectivement, Saint Pédis, dans le discours du 19 avril 1909, à l'occasion de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc. Celui qui se révolte contre l'autorité de l'Église, sous l'injuste prétexte qu'elle envahit le domaine de l'État, impose des termes à la vérité. Celui qui la déclare étrangère dans une nation déclare du même coup que la vérité doit y être étrangère. Celui qui a peur qu'elle n'affaiblisse la liberté et la grandeur d'un peuple est obligé d'avouer qu'un peuple peut être grand et libre sans la vérité. Non, il ne peut prétendre à l'amour cet État, ce gouvernement, quel que soit le nom que lui donne, qui en faisant la guerre à la vérité, outrage dans l'homme ce qu'il y a de plus sacré. Il pourra se soutenir par la force matérielle. On le craindra sous la menace du glaive. On l'applaudira par hypocrisie, intérêt ou servilisme. On lui obéira parce que la religion prêche et en oblige la soumission aux pouvoirs humains, pourvu qu'il n'existe pas ce qui est opposé à la sainte loi de Dieu. Mais, si l'accomplissement de ce devoir envers les pouvoirs humains, en ce qui est compatible avec le devoir envers Dieu, rendra l'obéissance méritoire, elle n'en sera ni plus tendre ni plus spontanée, jamais elle ne méritera le nom de vénération et d'amour. Ces sentiments de vénération et d'amour, dit Saint Pédis, cette patrie seule peut nous les inspirer, qui, unie en chaste alliance avec l'Église, produit le vrai bien de l'humanité. En conséquence, si les maux que connaît le XXe siècle sont les mêmes que ceux qu'a connus saint Anselme sous le pontificat de Grégoire VII, les remèdes sont les mêmes. Or le mal sur lequel revient sans cesse Saint Pédis, en particulier dans cette encyclique dont Communium Rerum, c'est l'apostasie, ou bien, il lui donne un nom, le laïcisme. Si ce mal donc est le même, le remède est le même. Le remède proposé par Grégoire VII, c'était la puissance du sacerdoce pour la restauration du Christ rédempteur et la gloire du Verbe incarné. Saint Pédis n'en a pas d'autre en disant « Omnia instaurare in Christo ».
Grazie a David Giorna per la sua conferenza. Chiudiamo questa serata con la recitazione dell'Angelus. Poi ricordo che alle 7 c'è la Santa Messa, chi vuole, alle 7.
Angelus Dominus Mariae, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
exiam sila Domini.
Iam mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verum caro factum est.
Et gravitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Et benedicamus promissionibus.
Oremus, gratia tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniavimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis et gloriam perducamur perennem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium mani et semper visco.
Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il est inutile nier que l'Église traverse aujourd'hui une épreuve terrible. Les faits ne manquent pas pour nous faire toucher du doigt, on peut dire chaque jour, les hérésies dans le domaine doctrinal, les sacrilèges dans le culte, la puissance des pouvoirs parallèles ou cachés, la carence ou l'abus de l'autorité. Dans cette dure épreuve, de rares évêques, quelques prêtres séculiers réguliers, des religieuses, des fidèles, ont décidé par attachement à l'Église de maintenir ce qui était pratiqué, ce qui était enseigné avant cette révolution, définie par le pape Paul VI, autodémolition de l'Église, et qui porte à l'apostasie. Ce petit reste de fidèles prie de tout son cœur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef et le roi invisible, de faire sentir son pouvoir divin en donnant à l'Église un pape qui, plutôt de coopérer à l'autodémolition, exerce son pouvoir, son pontificat, pour confirmer la tradition. On ne voit pas comment ces fidèles et ces prêtres, qui gardent la foi comme ils l'ont reçue de l'Église, puissent être accusés de désobéissance à l'Église. Et on voit encore moins comment il peut être dit qu'ils ne sont plus fils de l'Église. Nous sommes fils de l'Église tant que nous croirons ce que l'Église nous a enseigné à croire et tant que nous ferons ce que l'Église nous a enseigné à faire, c'est-à-dire ne pas pactiser avec ce que détruit la foi. Nous ne doutons pas d'être des fils de l'Église et nous sommes sûrs d'être en totale communion avec l'Église, l'Église catholique, apostolique et romaine, tant que nous restons dans la doctrine qu'elle a toujours enseignée, doctrine proclamée par les conciles, attestée par le sang des martyrs, crue par une foule de saints et confirmée par Dieu avec de nombreux miracles. Comme fils de l'Église, nous faisons de notre mieux pour préparer le jour où la hiérarchie retrouvera sa raison d'être, le jour où l'Église sera libérée de ce brouillard, le jour où Rome retournera phare de lumière pour le monde catholique. C'est parce que nous sommes de l'Église, parce que nous sommes ses fils dociles et très aimants, que nous avons refusé de suivre le courant des innovations, sachant qu'elles portent à l'autodémolition puis à l'apostasie. Nous croyons fermement que porte in feri non prevalebunt, et que donc un jour l'Église reconnaîtra la valeur de notre résistance. Et comme l'écrit le père Calmel, en définitive, si nous sommes persuadés que les innovations post-conciliaires ne sont pas d'Église, n'engagent pas notre obéissance, seront manifestement rejetées lorsque prendra fin l'occupation de l'Église, c'est parce que ces bouleversements travaillent par eux-mêmes à détruire l'Église si nous la considérons dans son mystère fondamental, que nous voyons en effet l'Église comme temple et demeure de Dieu parmi les hommes ou comme médiatrice divinement assistée de la vérité et de la grâce, que nous l'envisagions comme le corps du Christ et son prolongement mystique
Jésus-Christ répandu et communiqué, ou comme l'épouse sans tache ni ride, qui dispense aux pécheurs les biens surnaturels dans une union intime avec son époux et son roi. De toute manière, les mesures ambiguës, le rituel mouvant, le catéchisme informe, la morale sans précepte, la discipline religieuse sans obligation, l'autorité hiérarchique dépersonnalisée et transférée à un appareil fuyant et anonyme. Aucune de ces inventions post-conciliaires n'appartient véritablement à l'Église. Nous n'avons pas à en tenir compte, puisque nous sommes enfants de l'Église et que nous entendons le rester. Nous gardons la tradition avec patience. Les forces modernistes occupantes ne pourront plus bâillonner bien longtemps les lèvres sacrées de notre mère. Elle nous dira tout haut que nous n'avons rien de mieux à faire que de tenir saintement la tradition. Patientia pauperum non perimit in finem. La patience des pauvres ne sera plus indéfiniment trompée. Notre fidélité n'est pas de notre mérite, mais elle est mérite de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses âmes que le Seigneur a suscitées pour sonner l'alarme. Une de ces personnes est certainement Don Francesco Maria Putti, qui avec la revue Sicinono a été une lumière dans les ténèbres du post-concile et un réconfort pour ceux qui veulent rester fidèles à l'Église voulue par notre Seigneur. Et nous sommes ici pour prier pour le repos de son âme, mais aussi pour le remercier pour ce qu'il a fait pour l'Église et les âmes, et aussi pour le prier de continuer d'en haut sa mission. Il semble juste aussi de profiter de cette occasion pour prier pour les autres pionniers de la résistance catholique qui nous ont quittés pour la récompense éternelle. Nous pensons en particulier au père Calmel, qui a su, il y a 20 ans, voir avec tant de clarté la crise actuelle. À Monseigneur Ducobourget, qui a maintenu la Sainte Messe de toujours à Paris. À l'abbé Coache, qui nous a quittés depuis peu et qui fut un modèle dans le combat de la foi. À Monseigneur Antonio de Castromayer, qui a refusé avec une grande fermeté que son diocèse tombe dans l'apostasie actuelle. À Monseigneur Marcel Lefebvre, l'Athanase des temps modernes. Ces noms et bien d'autres seront la gloire de l'Église pour ces années terribles que nous traversons. Invoquons-les afin que du ciel, il nous guide et nous protège. Comme fils, recourons à notre mère, elle qui est restée debout au pied de la croix de son fils, avec l'âme déchirée par la douleur. Elle est bien capable aussi de nous soutenir en cette épreuve, avec son intercession maternelle et puissante. Elle nous rappelle que la victoire de la résurrection est cachée dans la croix elle-même. Et la résurrection de notre Seigneur nous assure qu'aussi sa divine épouse, l'Église catholique, apostolique et romaine, ressuscitera des ténèbres actuelles. C'est notre indéfectible espérance. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.